Ok, alors bienvenue à tout le monde. C'est parti pour une heure et demie d'émission. On est là tous les mercredis, tous les quatrièmes mercredis du mois sur Radio Libertaire. Alors, j'en profite pour passer un salut aux gens qui nous écoutent à la librairie du Monde Libertaire en ce moment, au 145 Henri Hamelot. Alors, dans la dernière émission du mercredi 22 janvier avec Hervé du collectif La Horde, on avait discuté à propos de l'Action française, du Rassemblement national, de Génération identitaire et aussi de la cocarde étudiante. Et ben ça tombe bien parce que la cocarde étudiante, c'est le sujet d'aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai deux personnes avec moi en studio ici à Radio Libertaire. Alors, je vais vous présenter rapidement, il y a Misère qui est avec moi, salut à toi. Et il y a aussi Mao, alors je te salue Mao.
Ben, salut à vous.
Et alors, donc, vous êtes censé militer à la bibliothèque autogérée de Tolbiac. Alors, la bibliothèque autogérée de Tolbiac, c'est sur Paris 1, Centre Pierre Mendès France, Paris 1 Panthéon Sorbonne. Toi, Mao, pareil, il me semble que tu
es... Oui, en effet, on est tous membres de cette bibliothèque.
Ok, bah on en parlera tout à l'heure après un petit peu plus d'émission. Alors la cocarde étudiante, moi je vais rentrer immédiatement dans le vif du sujet parce que c'est une organisation qui effectivement fait parler d'elle. C'est une organisation qui est présente dans le monde universitaire. Alors je suis allé sur leur site internet. Hein, c'est une initiative qui se présente comme le porte-étendard de la souveraineté nationale, de la famille, contre le péril migratoire ou même pour la civilisation européenne. Alors, faut savoir que cette organisation a une élue. Hein, je vais donner son nom à l'antenne, elle s'appelle Émilie Gérard, elle est à Nanterre au Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire, le CFVU. Elle ouvre aussi des sections dans plusieurs villes comme Toulouse, Montpellier, Lille, Caen, et aussi du coup à Paris, hein, à la Sorbonne. Et elle est assez active sur un dossier qu'elle appelle l'Union de la droite. Ses principales cibles, c'est l'UNEF, le NPA, et aussi ce qu'elle appelle les bloqueurs, parce qu'elle est attachée à de très grands principes comme la méritocratie. Elle se plaint, cette cocarde, sur le net, d'interruption de cours à Tolbiac. Par, je cite, une petite clique gauchiste, et elle appelle à ce que les sanctions pleuvent sur cette petite clique. Alors juste pour à titre d'entrée en matière, ces interruptions de cours, elles correspondent à quoi exactement? Quel est leur objectif? Et est-ce que la direction suit les réquisitions de la cocarde en sanctionnant les personnes qui mettent en œuvre ces interruptions-là?
Alors ces interruptions de cours sont pour la majeure partie d'entre elles dû à des fermetures administratives suite à des tentatives de blocage. Des annonces de blocage. Dans le cadre du mouvement social contre la réforme des retraites. Et jusqu'ici, l'administration n'a pas, de Paris 1 cette année, n'a pas mis en branle d'appareil répressif envers les étudiants qui se sont mobilisés.
Enfin, en tout cas, ils n'ont pas mis en branle à la suite des réquisitions et des demandes de la cocarde. Il y a quand même, c'est l'actualité très récente, puisque hier encore, en pleine période de partiel, il y a quand même des vigiles qui empêchent des étudiants et des étudiantes de rentrer. Ce sont des étudiants et des étudiantes qui sont pointés du doigt par la cocarde, rarement nominativement, mais c'est... On peut trouver, et ça arrive, nous on entend les gens de la cocarde quand ils tractent se vanter d'être écouté et entendu par la présidence, l'administration, ce qui justement bien justifierait, légitimerait leur présence et auprès des conseils de l'administration, mais aussi auprès des étudiants et des étudiantes. Mais le fait est que la répression, elle est totalement autonome, c'est la présidence et la fac qui la décident. Mmh. Et ils vont toujours se vanter. Si demain, il y a un communiqué qui est sorti sur ces étudiants et étudiantes empêchés de passer leur partiel par les vigiles parce qu'identifiés comme de gauche et militants-militantes, c'est pas impossible que demain la cocarde Paris 1 vienne revendiquer. Mais dans les faits, elle est insignifiante aux yeux de l'administration sur ce point-là.
D'accord. Alors, sur Tolbiac, là où vous êtes plus ou moins actif, la cocarde réalise surtout... Alors, d'après ce qu'on peut voir sur Facebook et sur Twitter, réalise surtout du tractage. Mais d'après un communiqué que je suis allé trouver et qui est signé du CIAMO, hein, le CIAMO c'est un groupe antifasciste qui agit à la Sorbonne, la cocarde adopte des méthodes d'action un peu plus musclées que du simple tractage, au moment surtout de blocage ou de contestation. Le CIAMO réagit lui aussi par le biais de tractage pour dénoncer les agressions de la cocarde à Nanterre et aussi sur un SAS, c'est-à-dire l'Université Paris 2, Panthéon Sorbonne. Et alors dans ce communiqué, moi j'apprends que il y a des syndicats comme Solidaires étudiants ou l'UNEF qui sont visés par les attaques de la cocarde. Est-ce que vous, membre de la bibliothèque autogérée de Tolbiac, dont on va parler un petit peu davantage tout à l'heure, est-ce que vous vous organisez avec des structures comme Solidaires étudiants ou l'UNEF pour lutter contre les agissements de la cocarde?
Alors à l'échelle de Paris 1, nous organisons notamment avec Solidaires étudiants. Qui fournit aussi parfois des militants pour le travail en fait de dénonciation de la cocarde. Et au-delà de ça, nous appelons à toutes les bonnes volontés. Quant au mode d'action de la cocarde sur Paris 1 et la Sorbonne, en effet, ils ont une volonté de dénonciation de tout mouvement social, ce qui parfois a pu s'incarner dans le fait qu'ils ont déplacé des petits comités dans les AG, mais qui se sont toujours fait repousser par les étudiants. Mais quand ils viennent tracter, ils ne viennent pas tracter les jours où il y a une grosse présence. Ils viennent dans les jours, dans les un ou deux jours après, en grand nombre et avec ce qu'on pourrait qualifier d'un service d'ordre. Qui est souvent d'ailleurs pas identifiable comme étant de la coca.
Oui, qui est d'ailleurs souvent composé de militants, rarement de militantes, surtout de militants de l'Action française, qui sont un peu leurs supplétifs, leurs auxiliaires, qui viennent s'assurer que le blocage se passe bien. Et alors ça donne quand même lieu à des scènes assez cocasses, puisque nous, on a commencé un tractage antifasciste début novembre sur le site de Tolbiac pour informer, sensibiliser sur la cocarde et ses liens, notamment avec l'Action française et Génération identitaire. Et on se retrouve avec des étudiants et des étudiantes qui nous disent « il y a la cocarde dans la fosse ». Et donc on se rend dans la fosse et c'est là qu'on se rend compte que quand les vigiles interviennent pour éviter la confrontation à l'intérieur de la fac et posent la question « est-ce que vous êtes de Paris 1 ?», quand même pas mal de têtes qui s'écartent, qui remontent un peu les marches instantanément et qui laissent les étudiants de la cocarde de P1 gérer. Mais donc voilà, il y a ce service d'ordre qui est quand même en grande partie composé de militants de l'AF. Et juste un détail que le camarade n'a pas forcément explicité sur l'organisation avec Solidaires sur Paris 1. C'est peut-être aussi important de le savoir. Il faut savoir que le local dans lequel se situe la BAT est un local qui est disponible du fait des scores de la liste solidaire aux élections. Et du coup, même si traditionnellement, ce sont des militants, des militantes de Paris 1 qui font le travail, qui descendent, se confronter, parfois se mettre en danger, même physiquement, face aux militants d'extrême droite violente, mais même si on venait à travailler sans ces militants et ces militantes, on aurait quand même un lien qui me semble juste de...
Parle bien dans ton micro, excuse-moi.
Voilà, comme on s'organise dans des locaux qui sont obtenus par les listes de Solidaires, même si Solidaires ne fournit pas de personne, il y a quand même ce lien, qu'on le veuille ou non, quoi. Et ça, faut aussi en rendre compte, quoi.
Oui, d'autant que je pense que c'est quand même important dans le sens où, alors, on en parlait tout à l'heure, hors antenne, en fait, la cocarde à Nanterre, par exemple, elle se plaint d'attaque. Elle se plaint, là je vois sur son post Facebook du 28 janvier dernier, elle dit que les militants de l'organisation ont reçu des coups, ils appellent la direction à sanctionner les auteurs, les récidivistes de ces violences. Alors en fait de violence, c'est surtout l'élu dont on parlait tout à l'heure, Émilie Gérard, qui a été empêchée de tracter. Alors il me semble qu'on en a parlé là aussi, vous avez une petite connaissance de ce qui se passe quand même à Nanterre. Comment est-ce que il est possible de combattre cette personne, Émilie Gérard, qui est quand même une pionnière, si on peut dire, de la cocarde sur Nanterre, et comment il est possible d'expulser la cocarde de Nanterre, étant donné ce qu'elle peut y faire?
Alors déjà, sur cette militante de la cocarde en tant qu'élue, et comment la combattre, on était à Solidaires étudiants Paris 1 l'an dernier, et on a des camarades qui ont siégé en CFVU justement donc ça se passait au Panthéon, ces conseils, avec un élu cocarde et parfois son suppléant. Alors donc, pour connaître un peu le fonctionnement de la cocarde dans les instances de démocratie, entre guillemets, étudiante, de ce point de vue-là, la cocarde n'est absolument pas un danger. On parle d'une liste qui n'arrive même pas à respecter ses propres directives de vote, qui se retrouvent, parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne sont pas au fait de ce qui se dit, qui se retrouvent à voter comme les professeurs cégétistes, les syndicalistes UNEF et Solidaires. Donc, lutter contre cette personne en tant qu'élu, il faut se dire que, bon, je ne sais pas s'il y a, entre guillemets, quelque chose à faire. Après, c'est vraiment... contre la cocarde en tant qu'organisation et en tant que groupe qui réunit des militants et des militants extérieurs, que la question de la lutte se pose. Alors je sais pas si toi tu veux parler un peu des modalités de lutte qui ont pu exister sur Nanterre ces derniers temps.
Sur les modalités de lutte, en effet, puisque ce qui s'est passé à Nanterre, c'est qu'il y a eu une espèce de rassemblement de volontés venant d'horizons assez différents pour essayer, dans un projet commun, il me semble, d'une semaine antifasciste, qu'il y a eu en miroir aussi à Tolbiac, et à travers des tractages et une activité régulière, on essayait de sensibiliser les étudiants sur... ce que c'était que la cocarde et quels étaient le véritable danger que pouvait encourir l'université avec le développement de ce genre d'organisation.
Donc c'est d'abord un travail de sensibilisation et de rempart parfois physique, mais la stratégie de lutte elle est à peu près partagée. Nous on la partage sur Tolbiac et on sait que donc on est étudiant à l'HESS, et si un jour la cocarde essaye de venir à l'HESS, ce qui serait quand même assez étrange, ce serait la même. C'est d'abord sensibilisation, présence antifasciste aussi régulière que possible, parce que mine de rien, quand la cocarde se déplace à 25 avec un service d'ordre extérieur,
c'est toujours ponctuel.
Oui, c'est ponctuel, et il faut savoir que quand le service d'ordre se déplace, c'est pas pour tracter. Et si, en fait, on est en capacité de rameuter assez d'étudiants et d'étudiantes pour dégager la cocarde sans qu'il y ait d'affrontement physique, en fait, petit à petit... La confiance justement entre la cocarde et ses militants et militantes violents de groupes extra-étudiants s'effrite petit à petit, et c'est aussi ça c'est pour ça que nous on table sur une stratégie vraiment rameuter, sensibiliser un max de monde et ramener un max de monde sur place pour sortir un peu de ce qui a pu exister ces dernières années aussi notamment à Tolbiac sur les rixes qui survenaient avant les vacances scolaires, les derniers jours avant les vacances scolaires, l'Action française venait. Ils ont été remplacés par la cocarde. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté commune de sensibilisation plutôt que d'affrontement ponctuel, qui donne aussi du crédit justement à ces services d'ordre qui ne viennent que pour ça.
On parlait de Nanterre il y a un petit instant. Alors du 18 au 22 novembre dernier, il y a eu la semaine antifasciste à Nanterre. Il y a eu aussi à Tolbiac. Il y a eu à la fac de Jussieu aussi, il y a eu la projection du film Generation 8, qui a été diffusé sur Al Jazeera, qui parle des actions de Génération Identitaire Lille avec son bar La Citadelle. Il y a eu aussi une conférence avec Hugo Paletta, qui est auteur du livre La possibilité du fascisme. Alors, question simple pour ma part, quel bilan vous tirez de cet événement et quelle suite il est possible de lui donner?
Alors... comme bilan, on pourra remarquer que c'est une initiative qui en soi est prometteuse, puisque c'est un des événements rares où on a pu véritablement voir s'établir de fait une espèce de front commun entre les personnes qui doivent s'interposer à la cocarde. Et rien qu'en cela, le fait qu'on puisse reconnaître de nouvelles têtes justement se connaître les uns les autres et pouvoir avoir une dynamique commune, en soi c'est quelque chose de très positif.
Au-delà de ça, c'est quelque chose qui se refera, je pense, puisqu'il y a une volonté, on a dû abandonner ce projet, mais d'organiser une conférence sur la cocarde un peu dans le même esprit, voire sur le même modèle de ce qui s'est fait à Nanterre. Donc l'affaire à Tolbiac en prévision des élections, donc ce sont les élections du FR, je crois, il me semble, cette année. Il y a des élections de conseils centraux sur Paris 1, dans les derniers jours du mois de mars, il y avait la volonté d'en organiser au moins une ou deux conférences dans le même modèle, donc ça c'est pas fait, mais ça se fera très certainement sur des centres comme Tolbiac, voire selon justement les personnes, comme tu disais, qui se sont réunies dans ces fronts communs, pour ponctuels qu'ils aient été, en fonction des volontés de ces personnes, il y en aura sans doute sur d'autres centres, quoi. Mais ça continuera.
Ok, alors pour ma part, j'ai regardé la cartographie du collectif La Horde. Alors le collectif en question rapproche la cocarde d'organisations comme les OAF, comme l'Action française. Alors, est-ce que ces organisations, elles sont actives sur Tolbiac ou dans d'autres facs d'Île-de-France? Et est-ce que vous arrivez quand même à les neutraliser, si tant est que ce soit le cas?
Alors, est-ce qu'ils sont actifs sur les facs au sens qu'ils seraient des militants étudiants voulant parler aux étudiants? C'est très douteux. Par contre, il leur arrive parfois de s'intéresser à la vie étudiante, notamment les OAV qui, ces derniers mois, ont fait un ou deux, peut-être trois, tractages à l'EHESS dans le but de faire fermer un espace d'organisation autonome qui s'appelle La Brèche. Et du coup, en cela, ces groupes qui se revendiquent véritablement du fascisme, puisque quand on regarde les publications des OAV, il y a des références ouvertes au Troisième Reich. Ces gens-là qui sont des nervis, qui sont là pour cogner, ils sont d'ailleurs connus pour cela. Quand ils s'intéressent à la question étudiante, c'est toujours dans une vue négative, autrement dit de faire fermer des espaces, de faire taire des gens, mais c'est rarement pour proposer quelque chose, contrairement à la cocarde qui voudrait proposer une vision de l'université ou de la société en général.
Mais du coup, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de services d'ordre, etc. Les OAV, c'est quand même un groupe assez percutant,
violent,
assez violent, sur Nanterre notamment. Plus par rapport à vous, bibliothèque autogérée de Tolbiac, dont on a parlé en début d'émission. Alors, vous êtes situé en salle B906, c'est au centre Pierre Mendès France, 9e étage.
C'est ça.
Ok. Alors, d'après la présentation qu'on peut trouver sur la page Facebook, elle a été créée en 2007 et elle cherche à promouvoir une université où le savoir s'acquiert autant dans les livres que dans l'échange, le partage et l'action. Elle essaye d'informer sur un maximum de luttes et de tenir un calendrier militant, ça c'est ce que j'ai pu voir aussi. Calendrier, quel est-il ce calendrier pour les jours, les semaines ou les mois à venir?
Dans les semaines ou les mois à venir, à proprement dit de la BAT, il y aura très certainement en fait toujours une tenue de
permanence.
D'une permanence et toujours de la tenue de la bibliothèque en elle-même et de l'activité culturelle en général sur Paris 1, peut-être il me semble qu'il y a un projet de ciné-club en cours qui devrait sortir incessamment sous peu.
Et aussi une participation de la part de militants, militantes de la BAT à un cycle de conférences qui devait être proposé dans les campus de Paris 1, notamment Tolbiac-Sorbonne, mais qui en raison de la situation et de la mobilisation ne peut pas se tenir sur ces campus. Il y a des problèmes de contrôle de cartes des contrôles de cartes imprévus et imprévisibles qui empêcheraient de faire entrer des extérieurs. Donc il y a quand même, il sera sans doute justement, l'organisation d'un cycle de conférences sur le mois de mars et des personnes de la BAT y participeront et ce sera sans doute mis à jour, bon, on espère le plus vite possible. Mais voilà, après sur Paris 1 à proprement parler, malheureusement d'ici la fin de l'année ça va être un peu maigre.
Du fait de la situation principalement, oui. Et de la répression administrative que peut subir en fait ne serait-ce que le centre Tolbiac avec ses vigiles, ses fermetures et son flicage.
Et le fait aussi que les militants et militantes de la BAT sont actifs et actives dans la mobilisation et font primer le mouvement social sur l'organisation de conférences, même du ciné-club dont tu as parlé. Voilà. Il y a tout ça qui rentre en jeu.
J'ai lu aussi qu'il était possible de venir déposer des livres, qu'on pouvait discuter aussi avec des animatrices et des animateurs de cette structure. Alors, rien que pour ça, quand est-ce qu'on peut venir à la BAT, dans quelles conditions, sachant que c'est pas toujours facile de rentrer à Paris 1 quand on n'est pas étudiant dans cette université?
Bien, une fois qu'on a réussi à rentrer dans le centre Pierre Mendès France, il suffit de venir tous les après-midi de la semaine, de lundi au vendredi. Le local est ouvert et il y a du monde pour vous accueillir. Et il y a à votre disposition une bibliothèque avec des livres qui sont pas forcément les mêmes qu'à la BU, plus des livres tournés politiques ou sciences sociales dans une optique de contestation. Mais vous pouvez bien évidemment faire... Enfin, tous les dons sont les bienvenus.
Mmh. Ouais, qu'est-ce que vous avez comme bouquin, par exemple? Quel genre, quels auteurs, quels sujets? Pour un peu creuser sur le sujet.
Il faudrait qu'on se souvienne de tout le rayonnage. Alors, est-ce que tu as quelques titres, quelques noms de rayonnage comme ça qui te reviennent, peut-être les plus fournis?
Les plus fournis, ça sera sûrement des rayons sur la philosophie ou sur l'économie politique, des rayons assez fournis aussi sur les questions de l'histoire ou du colonialisme. Ce genre de sujets sont ceux qui sont les plus documentés à la BAT.
Ouais. Et pas mal aussi d'ouvrages théoriques, marxisme, léninisme, autonomie, anarchisme, quelques textes maoïstes aussi. Voilà, il y a quand même ce rayon-là qui est, mine de rien, assez fourni.
Exactement.
Et qui est d'ailleurs le plus renouvelé. Oui, le plus renouvelé, on profite du plus de dons.
Tout à l'heure, quand on a souhaité parler du calendrier militant, c'était un peu vide. Pour ma part, des dates, moi j'en ai, on peut voir ça ensemble. Par exemple, alors, ce soir, à la librairie du Monde Libertaire, on a la projection d'un film sur le service national universel. Alors peut-être que vous êtes actif sur ce genre de sujet. Le SNU, qu'est-ce que c'est? Je vais en parler immédiatement. Eh bien, c'est un projet d'émancipation de la jeunesse. Ça, c'est comme ça que le gouvernement présente son initiative sur le site snu.gouv.fr. Le film qu'on va pouvoir voir ce soir, il a été fait par Bernard Bessa. Il s'appelle SNU Embrigadement des jeunes. Et alors, la projection ce soir est assurée par le groupe La Commune de Paris de la Fédération Anarchiste et par l'Union Pacifiste. Donc l'objectif, il est quand même de contrer ce dispositif pour une raison très simple, c'est son contenu. Parce que son contenu, il faut en parler un petit peu. On a 2 semaines de séjour de cohésion, 2 semaines de mission d'intérêt général. On a un engagement facultatif de 3 mois à 1 an dans les réserves de l'armée, ou de la gendarmerie, dans la réserve de la police, chez les sapeurs-pompiers volontaires ou dans d'autres structures. Bon, pour nous, il n'en reste pas moins que le SNU, c'est un projet nationaliste qui permet l'enrôlement dans les missions répressives de l'État. Donc pour nous, c'est quand même clair que c'est quelque chose qu'il faut combattre, d'où la projection de tout à l'heure à la librairie du Monde Libertaire. Vous avez fait un petit peu quelques initiatives par rapport à ce SNU, Mao et Misère?
Alors, pas encore. Ce qui s'est dit, il faut savoir que déjà, alors je ne sais plus quand est-ce que le projet de SNU a été annoncé, mais très rapidement, dans les assemblées générales étudiantes, il y a eu des interventions pour en parler, mettre en garde, dénoncer, mais il n'y a pas eu de mobilisation, disons, spécifique relative au SNU. En tout cas, pas encore.
Étant donné que les étudiants sont déjà une tranche d'âge, en fait, qui n'est pas plus directement touchée par le SNU.
Oui, parce que c'est plutôt 18-25, effectivement. Pour notre part, il est quand même important de se mobiliser par rapport à ce dossier, parce que effectivement, on a un renforcement militaire, un renforcement de l'idée nationale, qu'on est là pour combattre. Hein. C'est pas pour rien qu'on s'attaque à la cocarde et à d'autres organisations. Autre événement qui peut là aussi être intéressant, c'est à 19h tout à l'heure, c'est-à-dire dans, il est quelle heure, 17h30, dans 1h30. Et c'est la présentation d'un nouveau livre. Ce nouveau livre, quel est-il? Lumière sur Mary Brune, volume 3, publié par le collectif Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste, qui recense l'activité de municipalités qui sont tenues par le Rassemblement National. Alors, parmi elles, on a Beaucaire, on a Béziers, on a Le Pontet, on a les 13e et 14e arrondissements de Marseille avec Stéphane Ravier, on a Fréjus, on a Hénin-Beaumont, on a Mantes-la-Ville. Et alors, l'objectif de l'événement de tout à l'heure et du bouquin qui sera présenté, c'est de montrer, d'après le collectif Visa, l'obsession sécuritaire, le racisme, l'autoritarisme et l'antisyndicalisme des mairies RN. Alors, l'événement, il est accueilli par le bar Saint-Sauveur, qui est situé 11 rue des Panoyaux, dans le 20e arrondissement de Paris. Et le bouquin en question, il est édité par Sileps et il est disponible au prix de 8€. Alors, peut-être le sera-t-il prochainement à la librairie du Monde Libertaire. Un autre événement pour ma part, c'est après-demain, à 18h, on a rendez-vous à la librairie du Monde Libertaire, soirée anticarcérale, avec l'anarchiste Black Cross par Île-de-France. On aura de l'écriture aux détenus, avec la mise à disposition d'adresses de personnes incarcérées, avec du matériel d'écriture pour cela. À 19h30, on aura la projection du film Sur les toits, qui était réalisé en 2014, qui parle des révoltes de prisonniers dans les années 70. Et pour finir la soirée, on aura une discussion autour de la prison et des luttes anticarcérales. C'est au 145 de la rue Amelot. Alors pour votre part, avant de venir, vous avez quand même réalisé un petit petit historique par rapport à la cocarde qui devrait quand même nous permettre de mieux comprendre à qui on a affaire, même si je l'expliquais tout à l'heure, le coût de la souveraineté nationale, la famille et bien d'autres choses. La cocarde étudiante, et c'est en ça que c'est bien ce que vous allez nous éclairer, le petit souci, c'est que sur le net, ils mettent pas beaucoup de choses. Et vous, qui êtes quand même étudiant à Tolbia, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, eh bien, vous avez une connaissance de la cocarde qui est quand même assez aiguisée. Donc, je vous laisse en parler un petit peu plus. Avant l'année dernière, notamment avec leur élection à Nanterre, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en œuvre pour vraiment s'installer dans les universités parisiennes ?
D'abord, pour remonter vraiment au commencement, il faut remonter en 2015, juste pour parler de la formation, et de la fondation surtout. Donc c'est un syndicat étudiant créé en 2015 à Assas par un ancien des jeunes de l'UMP, qui d'emblée présente des liens organiques avec, je ne sais pas si ça ne s'appelait pas encore les Républicains justement, mais donc avec les Républicains actuels, avec Debout la France et avec ancien FN, actuel Rassemblement National. Donc... d'emblée, même si c'est à partir d'il y a deux ans et demi que ça s'est accéléré et qu'ils ont commencé à tenter vraiment de s'implanter avec peut-être un peu, on ne peut pas parler de succès, mais qu'ils ont réussi à assurer quand même une présence plus régulière qu'auparavant. Avant tout ça, il faut savoir que quand ils arrivent sur la fac, il y a déjà un syndicat de droite qui s'appelle l'UNI, qui est un syndicat qui était lié à l'UMP, qui est toujours lié aux Républicains. Donc... d'emblée, si vous voulez, quand ils se forment, ils ont une mission. Et d'ailleurs, c'est une des rares éléments assez lisibles sur leur site, parce que ben justement, il est assez peu fourni. Il y a pas mal de lignes, parfois une belle plume, mais c'est assez creux concrètement ce qu'on y lit. Donc leur objectif, c'est d'instaurer une hégémonie culturelle de droite dans les universités et y faire résonner leurs idées nauséabondes. Donc,
l'hégémonie culturelle de l'université, qu'est-ce que ça veut dire ?
Leur hégémonie, l'hégémonie culturelle de la droite dans l'université. Alors justement, ça passe par principalement la production de tracts, de communiqués et surtout en fait l'organisation de conférences. Alors, on a fait une petite recension de leurs conférences, de leurs propos et de l'évolution. Alors d'emblée, ce qui se passe, c'est que la cocarde veut se différencier donc de l'UNI, syndicat de droite, et de ses revendications qu'elle juge trop corporatistes, trop libérales. On pourrait résumer en fait le rôle de l'UNI à ce syndicat de droite très peu actif dans les conseils, donc une utilité assez réduite et une pertinence, pareil, assez critiquable d'un point de vue d'étudiants de droite. Donc les étudiants doivent étudier librement et l'extrême gauche nuit... à la méritocratie, au bon fonctionnement de l'université. D'emblée, l'objectif de la cocarde, c'est de dépasser ce genre de revendications en proposant vraiment... Enfin, l'idée, c'est de mener la bataille culturelle. Alors, je vais te laisser la parole, Mao. On va peut-être faire un point assez synthétique, mais quand même suffisamment fourni sur justement leur combat culturel à l'université.
Cette bataille culturelle, ils la font principalement à travers l'organisation d'événements, de conférences. Et du coup, nous, on a essayé de travailler un peu sur quel était le contenu de ces conférences. Alors, sans nous y rendre, bien évidemment, parce que on n'a pas forcément, n'est pas forcément les bienvenus. Mais cependant, sur leur site, on y apprend un certain nombre de choses, notamment les noms et identités des gens qui y interviennent. Du coup, les premières conférences qui ont eu lieu, faites par la cocarde, qui remontent à 2016-2017, on y voit en fait, dans un premier temps, des préoccupations qui sont assez naturelles pour des étudiants de droite. On y a, dans un premier temps, l'insertion dans l'entreprise, la souveraineté, le Frexit. Des discussions transpartisanes entre différents représentants de la droite gaulliste. Des choses assez classiques. C'est à partir de 2017 véritablement que là il y a une espèce de tournant vers une droite un peu plus dure. On a noté quelques noms et en premier nom on remarque la présence de Xavier de son vrai nom Christian de Bonguin. Professeur d'université et surtout ancien d'Occident et d'Ordre Nouveau. Il a été lui-même candidat au municipal à Paris pour Ordre Nouveau. Une organisation qui est véritablement néo-fasciste, ouvertement, qui a eu des liens avec Ordine Nouveau en Italie, c'est-à-dire un groupuscule terroriste qui a tué des gens en Italie. Et bon, au-delà de ça, plus récemment, ce brave Christian de Bonguin a fait des travaux universitaires de criminologie qui ont d'ailleurs été qualifiés par Mathieu Rigouste de bel exemple de collusion entre l'idéologie sécuritaire et l'extrême droite. Du coup, on a un idéologue néo-fasciste, véritablement, dans les grandes personnalités. On y a aussi, on y remarque Jordan Bardella, qui est notre grand vice-président du Rassemblement National, qui doit y parler notamment de l'avenir du Rassemblement National, c'est-à-dire le lien organique entre Rassemblement National et Cocarde est assumé pleinement. On y retrouve aussi, pas besoin de citer les noms, il y en a 4 ou 5, vous irez voir par vous-même si cela vous intéresse, de nombreux idéologues de la droite catholique traditionnaliste, où ils nous font notamment une conférence qui peut amuser à premier abord, mais qui est véritablement nauséabonde, puisque c'est une conférence qui vante les bienfaits de la discrimination comme rempart au grand remplacement.
Et peut-être une dernière personnalité qui nous a semblé remarquable. C'était en 2018, il me semble. La Cocarde donc s'offre le luxe d'inviter Alain de Benoît, pape de la Nouvelle Droite française, cofondateur du Grèce. On va revenir justement après. Ancien rédacteur ancien rédacteur du journal clandestin de l'OAS, ce qui n'est pas rien, et qui est donc. Alors, je sais pas si ce que tu veux qu'on parle un peu de ce que c'est que le Grèce, parce que c'est.
C'est le groupe
le plus important à présenter, ouais. Il y aurait d'autres, mais
vous pouvez présenter juste Grèce, GRESE,
GRECE.
Alors c'est le groupement de recherche et d'études, au pluriel recherche et études, pour la civilisation européenne. C'est
c'est une espèce de think tank avant l'heure. C'est là où se fonde véritablement un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Droite. C'est un rassemblement de néo-fascistes en tout genre qui, face au constat qu'il y a une espèce de retour du gauchisme dans les années 60 et une nécessité pour eux, en fait, de sortir de leur ancien folklore qui est rebutant, en fait, vont commencer à réfléchir à de nouveaux moyens, en fait, de toucher la société. Et c'est à travers justement une réappropriation du concept de Gramsci d'hégémonie culturelle qu'ils vont justement se lancer à l'assaut de la société civile. Pourquoi c'est important d'évoquer le Grèce? Parce que justement, en fait, la Cocarde est dans son essence même, un plus pur enfant de la Nouvelle Droite et de son projet. Puisque dans sa volonté de faire rupture avec l'ancien syndicalisme étudiant de droite qu'est l'UNI, il y a une volonté de véritablement mener une bataille culturelle pour en fait essayer de faire avancer les idées de droite dans la société.
Et ça passe notamment par... Nous, on s'est quand même fait un arpentage qui ressemblait plus à une purge de leurs textes, de leurs communiqués. Et en fait, on a remarqué une référence explicite au mouvement néofasciste, donc dans leur présentation, partie qui s'appelle donc Saisir le Kairos, saisir le moment opportun. Et en fait, on retrouve dans ces petites lignes qui présentent. Concrètement, c'est un texte écrit par un étudiant ou une étudiante, je sais pas, qui a une belle plume, qui écrit de la littérature, et c'est assez creux politiquement. On n'en tire pas grand chose. Sinon, l'utilisation de l'expression chevaucher le tigre, qui est le titre d'un ouvrage donc de Julius Evola, intellectuel italien plus fasciste que Mussolini, qui a essayé d'influencer la politique du Troisième Reich en vain, et qui était aussi spécialiste en ésotérisme. Bon, on va pas faire tout le CV. Et c'est une référence qui pour nous est absolument pas anodine, et on l'interprète comme une volonté de s'inscrire justement dans la continuité des groupes et des organisations qui se sont réclamés de Julius Evola, groupes et organisations qui ont compté dans leur rang des militants qui ont pu être invités, ou en tout cas qui peut-être, on ne sait pas, dans les prochaines conférences, seront invités. Mm-hmm. Que ce soit de Benoît ou Christian de Bonguin, militant d'ordre nouveau. Quoi. C'est quand même une référence assez explicite. Et juste finir ce point sur chevaucher le tigre, l'expression est mise entre guillemets, donc il n'y a pas d'erreur possible. Elle est citée en tant qu'expression. Et voilà. Et justement, tu parlais d'ordiner nouveau. Nous, ça nous a alarmassé parce que, la Cocarde, c'est principalement des étudiants. Elle a une double fonction, et c'est la deuxième qui nous fait peut-être plus peur. Bon, la première, c'est de former les cadres politiques de la droite de demain. Et c'est à ce titre que il y a, je ne sais plus quel cadre, c'était le président de la Cocarde, Luc Lahal, qui a été embauché l'an dernier par Jordan Bardella, qui est député européen du RN, et vice-président du RN. Il a été engagé comme collaborateur parlementaire. Donc ça obéit à la première logique de la Cocarde. Proposer un nouveau syndicalisme étudiant de droite, écraser l'UNI en s'opposant au gauchisme dans l'université, et poser les cadres de la future union de la droite. Mais il y a aussi, et ça c'est affiché, et on pourrait dire entre les lignes, mais ce serait faux parce que c'est quand même suffisamment explicite pour qu'on le remarque en première lecture, il y a une volonté de permettre aux militants et militantes étudiantes de droite de se rapprocher de certaines formes de militantisme extra-universitaire. Et en fait, c'est dans cette logique que s'établissent des liaisons pérennes entre la Cocarde et les groupes violents qu'on a pu citer précédemment, que ce soit Génération Identitaire ou l'Action Française. Mais voilà, ça c'est la double fonction de la Cocarde. Exactement. Et qui est assumée, alors qui est moins assumée quand les tractages se passent mal et qu'ils jouent la carte de la victimisation, mais qui, en fait, il suffit d'aller sur leur « qui sommes-nous » pour se rendre compte que, sans même avoir à lire entre les lignes, il y a quand même cette double fonction.
Mm-hmm. Il y a la volonté de créer une école de cadre de la droite de demain qui serait basée sur des référents théoriques qui nous viennent directement des périodes néofascistes des années 60-70, avec son lot d'effusions de sang.
Et peut-être un dernier point sur les liens avec les groupes extrêmement violents. Il y a toute une série de, bon, ça c'est vraiment la pire partie de l'arpentage, de communiqués de la Cocarde, qui affiche des liens vraiment ouverts avec l'ICEP, donc une sorte d'IEP privé fondé par Marion Maréchal Le Pen. Ils étaient présents, ça c'est quand même, ils s'en vantent, sur les réseaux à la dernière Manif pour tous. Donc il y a quand même...
Puisqu'ils publient des images où on peut d'ailleurs voir à visage découvert... des membres de la Cocarde de toutes les universités parisiennes où ils sont présents.
Et on s'est retrouvé quand même à lire des communiqués. Donc je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais en 2018, pendant le mouvement étudiant contre la sélection, il y a eu plusieurs occupations d'amphithéâtres, voire de centres universitaires entiers. Et c'est sur Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a un commando, tu me corrigeras si je me trompe, mais qui était formé principalement de professeurs, membres de la Ligue du Midi.
Ça, je ne saurais le vérifier.
Il y avait une ou deux têtes de la Ligue du Midi dedans, donc c'est un groupuscule néofasciste.
Mais la Ligue du Midi, c'est un homme qui s'appelle Roudier qui tient ça, si je ne dis pas de bêtises, oui.
Il me semble
Olivier Roudier.
Et donc, le doyen de l'université, Philippe Pétel, je crois, a été quand même contraint de poser des sanctions contre les enseignants, même s'il l'a fait à contre-cœur, on a pu le voir. Et il y a un communiqué de la Cocarde qui dénonce la lourdeur des sanctions prises à l'encontre de ce commando cagoulé armé de lattes et de manches de pioche qui est venu tabasser des étudiants qui occupaient un amphithéâtre pour une nuit. Voilà, je pense que ça en dit long sur les objectifs, en fait, de la Cocarde, ce genre de communiqués, ce genre de conférences, ce genre de liens qui sont assez explicites.
Est-ce qu'éventuellement il y a d'autres organisations, je parle notamment celles qui sont sur la cartographie de l'ordre, hein, qui est vraiment un outil très précieux, est-ce qu'il y a d'autres organisations qu'on pourrait rapprocher de la Cocarde étudiante en ce moment? On a parlé tout à l'heure des OUAV, de l'Action française et tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres rapprochements qui peuvent être faits au niveau organisationnel?
D'un côté moins violent mais plus entre guillemets culturel et politicien, il y a le Ciel qui est une espèce de rassemblement de cathos tradis plus lié organiquement genre au Parti démocrate chrétien ou aux Les Républicains, mais qui compte en son sein un certain nombre de personnes qui peuvent donner du crédit à des tests comme le grand remplacement, puisqu'il me semble que l'un des colistiers de Renaud Camus était membre du Ciel, et qu'il y a eu dans les personnes qui ont intervenu dans les conférences de la Cocarde des gens qui sont membres de ces organisations là.
Ciel,
il y a une espèce de lien organique avec toute la mouvance catholique traditionnaliste aussi, en plus de la Nouvelle Droite.
Des groupes présents dans la Manif pour tous, du coup, dont d'ailleurs, il me semble qu'il y avait l'Action française d'ailleurs, avec son propre cortège à l'intérieur. Donc, Action française, Zouave, Manif pour tous et Ciel, ce seraient quand même les principaux groupes liés à la cocarde, quoi. Et Rassemblement National, évidemment, lié organique.
Mmh. Bah, ce qui est quand même intéressant, et ce qui, moi, m'interpelle, c'est que le Ciel, c'est quand même une organisation qui date pas d'hier. Hein. Le Ciel, si je me souviens bien, on en a parlé le mois dernier, hein, avec Hervé du collectif Lord. Le Ciel, c'est souveraineté, initiative et liberté, quelque chose comme ça. Bon, c'est creux, hein, c'est toujours franchement assez flou. Alors, parmi les fondateurs, les membres en tout cas actifs du Ciel, à un moment il y avait quelqu'un qui s'appelait Paul-Marie Couteau, hein, qui était très actif sur, pareil, un dossier qui, ce qu'il appelait l'union de la droite, hein, en gros le rapprochement FN, ce qui s'appelle plus maintenant FN par ailleurs, donc RN, les Républicains. À l'époque, c'était FN et UMP. Ce Paul-Marie Couteau a réussi à mettre sur orbite quelqu'un comme Gilbert Collard. Hein, c'est franchement pas rien. À l'époque, il y avait le Rassemblement Bleu Marine. L'idée de l'union de la droite, c'est un petit peu ça, quoi. C'est arriver à peu à peu faire rapprocher toutes les forces dites du mouvement national. Hein, bon, donc c'est pas forcément étonnant de retrouver le Ciel autour de la cocarde, mais pour ma part, je suis quand même assez surpris, étant donné que le Ciel est plus très actif. Ils sont plus spécialement actifs. Donc comment c'est, pourquoi est-ce que vous rapprochez le Ciel de la cocarde?
Je pense que ça peut se lier en fait aux racines de la fondation de la cocarde, qui est venue en fait d'une droite républicaine. Et qui, dans cette droite républicaine classique, il y a des liens par réseau qui se font avec, en fait, des gens qui sont là depuis, en fait, bien plus longtemps à droite. Il me semble qu'il y avait Monsieur Poisson du Parti démocrate chrétien aussi, qui était dans les membres qui ont intervenu pour la cocarde. C'est la cocarde, quand on va sur leur page, pour l'union de la droite, c'est le premier mot qui vient, ça, c'est quand on se connecte. Du coup, cette idée d'union de la droite fait aussi partie des projets déclarés de la cocarde. On n'en a pas forcément parlé parce que il nous semble que c'est un aspect qui est programmatique à court terme par rapport à qui est à notre sens secondaire par rapport au travail idéologique que mène la cocarde. Mais il se trouve que la cocarde a pour volonté aussi de créer un réseau de militants pour cette future école de la droite. Du coup, le fait qu'il y ait des anciennes officines, pas forcément extrêmement violentes, ni extrêmement radicales dans leur phraséologie, qui puissent intervenir, c'est somme toute assez normal dans leur projet.
Oui, mais en tout cas, pour ma part, ce qui était vraiment interpellant, en fait, parce que par exemple, dans les universités, avant, il y avait l'UNI, hein, oui. L'Union Nationale Interuniversitaire, pareil, Union de la Droite, Réaction, tout ce qu'on veut, mais eux, par contre, ils sont périclités, on les retrouve plus aujourd'hui.
Oui, ils souffrent grandement de la concurrence que leur fait la cocarde, mais il y a aussi... Il y a quand même une distanciation croissante entre l'UNI et la cocarde. L'UNI se revendiquant républicaine, mais à 100%. Mmh. Et en fait, il y a aussi le fait que l'UNI était présente, mais j'ai jamais entendu parler, ne serait-ce que de ça, en fait, d'intervention de l'UNI dans les conseils où ils ont pu siéger. Et enfin, c'était une présence qui était... Ça ressemblait plus à une officine de l'UMP et puis des Républicains pour récupérer des étudiants de droite, les former vaguement, parce qu'on a des informations depuis l'intérieur de l'UNI Parisien, puisque on a des camarades qui allaient se renseigner. Et en fait, l'UNI, il faut vraiment comprendre que l'UNI, c'est un peu un BDE de droite, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une corpo de droite qui fait pas grand chose à part exister et faire des collages. L'extrême gauche détruit l'université, et en fait c'est une absence visible plus qu'une présence, en fait, l'UNI, concrètement.
Exactement, mais ce sont deux projets politiques bien distincts. D'un côté, l'UNI n'apparaît en fait sur les universités que les jours d'élection, mm-hmm. Pour essayer très certainement en fait de choper de l'argent à travers leurs élus pour pouvoir continuer de survivre en tant que petit BDE de droite, quand la cocarde, elle, assume véritablement une tâche historique de faire régner la droite comme hégémonie culturelle du mouvement étudiantin. C'est pour ça qu'il faut véritablement faire une distinction entre une organisation sur le déclin qui va très peu nous intéresser dans le cadre de la lutte antifasciste, et une organisation qui, elle, nous paraît bien plus dangereuse.
D'ailleurs, dernier point sur l'UNI, c'est quand même une organisation qui vire des militants et des militantes sur propos injurieux, que ce soit racistes, antisémites, sexistes, homophobes. C'est arrivé que des militants et militantes se fassent écarter. Et donc, alors que la cocarde, c'est quand même des militants qui insultent des camarades de Sally Houpin pendant des tractages.
Oui, non.
Et ça, tout le monde le sait. Des gens qui se revendiquent ouvertement néo-nazis devant tout le groupe de la cocarde. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que, enfin vraiment, pour nous, la question de l'UNI, elle s'est, on se l'est posée, on s'est renseigné rapidement, bon après sur notre fac, sur Paris 1. Mais oui, dans l'UNI, oui, c'est une vitrine bas de gamme des Républicains, concrètement, sans réel projet, en tout cas sur la fac, autre que réseauté avec les étudiants de droite.
Bah, ce qui ressort en fait, là il est 18h01, le petit bilan qu'on peut faire par rapport à la cocarde et aux organisations qu'on, apparentées, si on peut dire, c'est quand même qu'il reste une forme de marginalité. En fait, il y a quand même pas mal de marginalité malgré tout le cinéma, malgré l'expression idéologique, qui est des plus flous, qui est extrêmement flou. Rien que les principes qu'on a énoncés tout à l'heure en début d'émission, bon, la souveraineté nationale, la famille, tout ça. Bon, ça renvoie plus à des fantasmes qu'à des réalités. Ça renvoie à une vision de l'avenir qui n'en est pas une, finalement. Donc leur marginalité s'explique peut-être par ça.
D'une part, oui, le fait qu'ils soient flous leur sert à coller un maximum de traditions différentes dans la droite, mais je pense qu'on peut rebondir avec une phrase qui m'a assez impacté quand on a commencé à faire les recherches pour notre travail sur la cocarde. C'est qu'ils disent texto que l'idéologie et le combat culturel est plus important que les conditions matérielles des en règle générale. Ils assument le fait d'être justement dans leur monde des idées, plus que de se battre pour quoi que ce soit qui puisse être corporatiste ou concret, contrairement à l'UNI qui va essayer de nous dire que oui, on a réussi à faire ceci, cela, dans leurs campagnes électorales. La cocarde, je veux dire, occulte totalement cette partie-là, en fait.
Elle dit quand même lutter pour la sélection à l'université, et si jamais...
Mais c'est toujours dit dans l'optique de combattre l'égalitarisme. C'est pas, en fait, pour que... Enfin, c'est toujours dans une optique qui est culturelle et idéologique, avant tout d'être comprise comme quelque chose qui doit être matériel pour les étudiants.
Et puis le combat pour ou contre la sélection, concrètement, la cocarde n'a aucune prise dessus. C'est aussi ça, en fait. Ils se positionnent pour la sélection, mais en quoi est-ce que l'intervention de la cocarde pourrait jouer un rôle dans... Le fait qu'une loi passe ou ne passe pas, qu'un tribunal administratif de la fac la juge, je sais pas, respectueuse des libertés fondamentales ou pas. Concrètement, la cocarde parle de sélection, oui, c'est très théorique. Elle ne fait rien.
C'est théorique, mais bon, le fait qu'il y ait quand même une élue cocarde CFVU de Nanterre, ça peut quand même provoquer quelque chose, au moins à l'échelle de l'université de Nanterre, étant donné le fait qu'il y ait aujourd'hui une certaine autonomie dans les facs françaises. C'est ça aussi qui peut être inquiétant. Il y a 10 ans et quelques, il y avait une loi qui était passée sur le sujet, une loi d'autonomie des universités. Donc, est-ce que sur Nanterre, avec une seule élue au CFVU, on peut être dangereux, véritablement?
Je pense sincèrement que non. Et ne serait-ce que parce qu'en fait, le fonctionnement de la soi-disant démocratie étudiante est fait de telle sorte à ce que, même si on arrive à poser une unanimité dans les rangs des délégués, des élus étudiants, il y aura toujours plus de postes du côté de l'administration. Je me suis déjà retrouvé en CVU à Panthéon-Sorbonne. On vote la suppression du contrôle d'assiduité pour les TD. En master, ça s'appelle séminaire. Sauf que c'est recensé comme TD et pas comme cours magistral. Le vote passe, l'assiduité est levée. Victoire pour les personnes qui, comme pas mal de camarades et moi-même, sommes étudiants, étudiantes et boursières en plus, voire travailleurs, travailleuses. Et à peu près une heure après, quand la salle s'est vidée de moitié parce que les points principaux de l'ordre du jour sont passés, c'est la tribune qui est tenue par la présidence et l'administration qui décide de resoumettre au vote parce que on n'avait pas compris. Et ça arrive vraiment souvent. Et donc, alors déjà qu'ils ont du mal à voter pour leur propre proposition et se retrouvent à voter pour l'UNEF solidaire, c'est quand même assez fort. Mais en plus, avec une seule personne, d'un point de vue du fonctionnement de la démocratie étudiante, il n'y a pas de, il y a pas de risque. Le risque, en revanche, c'est que un score qui permet, quand on obtient des élus, on obtient de l'argent. Et ça, pour le coup, c'est le risque. L'élu va pas servir à faire passer leurs idées, à faire la bataille culturelle. Par contre, va leur permettre de toucher de l'argent, voire des à partir locaux. Du moment des locaux. Et c'est ça le problème. Ils ont des locaux dans le centre Cassin à Paris, hein,
qui pas loin de la rue Broca, ouais, ça.
C'est ça. C'est rue de Broca. C'est un endroit. Bon, ça ressemble plus à un placard à balai. Hein. Donc ça va. Disons que on a la chance quelque part que leur espace organisationnel sur la fac soit vraiment lamentable et ne permette pas vraiment de proposer une vraie activité. Mais c'est au-delà de la. Enfin, je pense que c'est ce qui annexe, c'est les locaux et l'argent, le problème de ces scores aux élections principalement.
En fait, le petit souci aussi qui ressort dans ce que toi tu peux dire, Misère, c'est qu'en fait le CFVU, c'est quoi? C'est un outil et c'est un godillot de l'administration, en fait. C'est le principal problème. Alors si la cocarde sert à ça, tant pis pour nous. Mais après, le problème, il vient de l'instrument lui-même, en fait.
Oui, après nous on l'utilise pour notre part, et on l'a utilisé quand on était sur des listes qui ont obtenu des élus. On l'a utilisé après pour la même raison, à obtenir de l'argent, conserver des locaux. Bon, la différence, c'est que nos locaux nous servent à nous organiser contre la cocarde. Mais oui, de toute façon, oui, on n'a rien à attendre à part cet argent et ces locaux de cette instance. Mais oui, elle est fondamentalement erronée, cette instance, elle sert à rien. On pourrait la supprimer et décider que c'est le président de la fac je sais pas, une sorte de conseil nommé par lui ou par elle qui décide, ça ne changera absolument rien, quoi.
Et parce que les listes en question, c'était quoi? C'était des listes autonomes, c'était des listes syndicales. Parce que ce qui est intéressant, et là, c'était pas forcément prévu qu'on en parle dans cette émission, mais je pense que c'est très important qu'on le fasse pour comprendre comment des organisations comme la cocarde peuvent émerger. Oui, dans quel cadre vous arrivez à ne serait-ce qu'à vous faire élire? Parce que se faire élire au CFVU d'une université, ça m'a l'air déjà un peu alambiqué comme affaire. Donc, vous, comment vous avez réussi à entrer dans cette voie-là?
Eh bien, c'est très simple. En fait, pour se faire élire, il y a besoin d'avoir une carte étudiante, à proprement dit. Ce qui, en soi, il faut récolter suffisamment de personnes avec une carte étudiante et de la bonne volonté pour faire campagne. Mais une fois élu, ça demande en fait plus de logistique. Il faut d'abord une association qui puisse avoir un compte en banque pour récolter l'argent et contracter une assurance pour avoir des locaux. En cela, ça peut calmer les ardeurs de certaines personnes qui n'auraient pas forcément le courage de passer derrière toutes ces tâches administratives que sont de déposer une association ou ce genre de choses. Mais c'est le jeu en vaut la chandelle, puisque les élections universitaires, c'est un moyen assez lucratif de récupérer de l'argent pour mener en fait une activité militante.
Il faut aussi savoir que justement, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de minimum, de taux minimum de votants pour que l'élection soit légitime. C'est-à-dire qu'on peut avoir une élection où il y a concrètement sur un centre ou sur une université, je sais pas, de 50 000 étudiants et étudiantes, il y a 1000 personnes qui votent. Les résultats sont calculés à la proportionnelle sur les votes exprimés. En fait, à partir de là, on peut très bien présenter une liste, à avoir 50 personnes qui votent pour nous, dont les 20 membres de notre liste, et se retrouver avec une personne élue. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est aussi ça la complexité. J'ai plus le chiffre, peut-être que tu l'as, toi, mais le taux de participation aux élections étudiantes à Paris 1, il doit être à 6-8%, c'est quelque chose comme ça.
C'est ridicule, oui.
Quand on était, c'était ça, c'est vraiment ridicule, quoi.
C'est certes l'une des élections auxquelles les critères pour voter sont peut-être les plus bas, mais en même temps, peu de gens se déplacent. Et enfin, je veux dire, faire campagne, c'est avant tout faire campagne autour de son petit groupe social. Et c'est assez simple en fait pour une liste de droite par exemple. Il leur suffit d'aller parler à tous les gens de droite connus et ils ont déjà un électorat qui leur est acquis. Du coup, au final, c'est de l'argent facile pour eux.
Et c'est toute la difficulté du coup derrière de la lutte contre ce groupe, ce syndicat qui est aussi une liste, puisque c'est par sa liste qu'il obtient de l'argent et des locaux. C'est aussi là qu'elle est difficile. Concrètement, si déjà les étudiantes et les étudiants ne votent pas, ou quasiment pas pour ces élections, c'est posé très vite pour nous la question, quand on a fait notre campagne de tractage contre la cocarde, est-ce qu'on met en avant un groupe ou une liste qui se présentera aux prochaines élections pour essayer justement d'appeler les gens à voter contre, chose qu'on a décidé de ne pas faire. On est un groupe autonome et on veut rester autonome de ces organisations, mais c'est vrai que La question de l'audience visée et de comment est-ce qu'on réussit à articuler la sensibilisation à le fait de couper l'herbe sous le pied de la cocarde d'un point de vue électoral, ça c'est toujours le problème, même si globalement la plupart des gens, on peut statistiquement deviner que la plupart des gens qui ont été touchés par le tractage statistiquement n'allaient pas voter et n'iront pas voter quoi qu'il arrive pour la cocarde puisqu'il a été très bien reçu. Les gens ne connaissaient pas forcément les liens, mais la réaction quasiment unanime c'était: ah, la cocarde, c'est des tocards, c'est qui, enfin, ils viennent tracter, ils ont des tracteurs racistes et... Et les élections, je sais même pas qu'il y a des élections, c'est ça concrètement. Donc bon voilà, je sais pas si ça éclaire un peu sur le fonctionnement des élections étudiantes, de ce que ça apporte aussi, mais en tout cas oui, clairement, vu la relative facilité à avoir un siège et de l'argent, c'est de toute façon c'est le gens vaut la chandelle. Oui. Ils l'ont très bien saisi.
Oui, et puis il faut aussi comprendre que ce sont des tribunes pour eux. C'est l'occasion, c'est le prétexte pour eux de lancer des grandes campagnes sur l'université et de justement pouvoir déverser toute leur propagande. Au vu des étudiants et dans certaines universités avec justement l'aide de la direction de l'université, puisque par exemple à Paris 1, quand on présente une liste, les professions de foi sont imprimées par l'université avec un certain nombre. Du coup, ça permet de faire aussi des économies de campagne. Ça permettrait d'avoir de la propagande payée par l'université pour pouvoir déverser son idéologie.
Un accès illimité à tous les emails, toutes les adresses mail des étudiants et des étudiantes de son université.
Exactement.
Donc en fait, même si parce qu'à part le CFVU, il y a d'autres instances ou pas?
Alors, il y a le conseil d'administration et il y a aussi des élections donc du FR, donc par pôle, qui ont alors les UFR, c'est sur 2 ans, 3 ans, c'est pas les mêmes durées. Mais oui, il y a la CFVU, il y a le conseil d'administration qui siège aussi de manière indépendante, et il y a principalement les UFR. En tout cas, nous, sur Paris 1, c'est les trois instances principales.
Oui, parce que ça, les outils en question, on en a parlé tout à l'heure, ça ressemble plus à des godillots de l'administration qu'à autre chose, mais c'est vrai que la perspective de récupérer des fonds pour pouvoir s'organiser, elle est quand même séduisante. Donc, c'est pas spécialement étonnant. Mais d'ailleurs, par rapport... Vous, la BAT, vous n'êtes pas forcément dans cet électoralisme-là, aujourd'hui en tout cas.
Se pose la question de la sauvegarde du local, et c'est tout, concrètement.
La sauvegarde du local.
Parce que si donc ce local, il appartient à Solidaire.
Ouais.
C'est Solidaire qui a eu le local via ses scores aux élections. Si Solidaire ne parvient pas à faire suffisamment de voix, on ne va pas nous laisser de locaux. Concrètement, alors qu'on pourrait les filer à une autre liste qui a besoin d'un local, qui vient d'avoir une personne élue. Donc il y a, en général, quand vient le temps des élections, c'est un soutien tacite à la liste, ou en tout cas, bon, on sait que cette année, Solidaires étudiants et étudiantes vont, dans leur communication, expliquer en fait pourquoi il et elle se présentent, et dire que, alors comme c'est pas des groupes qui sont actifs dans les mobilisations à drapeau déployé, contrairement à l'UNEF, le NPA ou d'autres, donc c'est pas forcément le groupe de gauche entre guillemets le plus connu, mais leur communication, ce sera de dire: nous, on veut des locaux pour pouvoir s'organiser, et de présenter les différentes initiatives qui sont réalisées grâce à leurs locaux. Donc là, pour la BAT, la question c'est comment aider Solidaires à la conservation des locaux qu'on utilise de facto, sans qu'ils aient d'ailleurs un regard dessus, puisque la BAT a une autonomie totale vis-à-vis de Solidaires. Mmh. C'est juste ce lien, en fait, on va dire, c'est un lien...
Légal.
Légal, quoi, le lien est légal. Mais donc, il y a une volonté de conserver le local, mais pas plus. Et la BAT ne se présente pas aux élections. Après, il y a quand même... C'est pas tout à fait hermétique entre la BAT et Solidaires, ne serait-ce que parce que...
Il y a des gens qui ont la double affiliation.
Voilà, il y a des gens qui ont une double affiliation, mais... Mais bon, le groupe conserve son autonomie. C'est vraiment purement pratique comme considération au sein de la BAT, les élections.
Et l'accueil que vous rencontrez de la part des étudiants sur Tolbiac par rapport à la BAT, comment vous le décririez ?
Bon, en soi, les étudiants, quand on commence à leur parler du projet qu'il y a derrière la BAT, de justement créer un espace justement de réflexion et... Et d'activités qui soient alternatifs à l'activité de la faculté, en soi, ils sont assez enthousiastes quand on leur présente le projet.
Ce qui ne veut pas dire qu'après, voilà, il y ait une participation massive ou un intérêt concret massif, mais il y a, Il y a des gens qui passent à la bibliothèque, qui regardent un peu. Alors c'est un peu folklorique quand on n'est pas militant d'extrême gauche, parce qu'il y a des affiches, des stickers. On sent quand même qu'on est dans un lieu qui politiquement est marqué. Mais les gens passent, les gens regardent. Les gens cherchent pas forcément toujours dans les rayons théorie politique, mais les gens se baladent, des étudiants en éco qui passent et qui regardent un peu ce qu'on a. Franchement, ça marche moins que les années précédentes, parce que voilà, il y a une conjoncture spécifique, la mobilisation, mais ça marche et c'est bien reçu. Et les gens, de temps en temps, passent, voilà, regardez, il n'y avait pas mon livre à la BU, est-ce que par hasard vous l'auriez ? Parfois, ça arrive. Et oui. Les gens, en général, repartent et disent, c'est intéressant et c'est. On peut les revoir passer une ou deux fois dans l'année ou se poser, discuter, poser des questions sur la mobilisation.
D'accord. Donc en fait, un accueil comme celui-là peut quand même vous aider à sauvegarder le local. Parce que là, pour vous, la première urgence, en fait, c'est de survivre.
Ah oui, mais le fait que les gens, justement, connaissent la BAT quand Solidaire va faire campagne en disant on fait en partie ça pour garder nos locaux dans lesquels la BAT s'organise, c'est vrai que ça. Si on n'était pas capable d'accueillir les étudiants et les étudiantes dignement, entre guillemets, de se faire connaître positivement, personne n'irait voter pour Solidaire pour sauver la BAT, quoi, concrètement.
D'accord, parce que Solidaire peut. Oui, puisque moi, j'ai dit, vous étiez dans le local de Solidaire étudiant. Mais donc, en fait, pour sauver votre local, pour l'instant, il faut compter sur la participation de Solidaire aux élections universitaires.
Oui, après, voilà, c'est cette participation, je sais pas si tu veux. Enfin, elle a jamais été remise en doute. Quoi.
Exactement, cette participation, dans le sens, s'il y avait demain une espèce de désamour de Solidaire des élections étudiantes, nous prendrions l'initiative de déposer une liste sous leur nom ou le nom d'une autre association. Nous pourrions changer de partenariat avec un autre syndicat. Mais pour nous, je veux dire, ce jeu des élections étudiantes est clairement en fait une question justement de garder nos locaux.
Mais de toute façon, penser un Solidaire parisien sans BAT, ce serait quand même assez contradictoire avec l'idée de ce Solidaire parisien qui a quand même été créé autant pour faire du syndicalisme que pour sauvegarder la BAT. Si ce n'est pas plus pour avoir cet espace quand même qui est assez important et qui nous tient à cœur, qu'est la BAT, plus que faire un travail syndical que l'UNEF faisait déjà. Voilà, y a un travail syndical de Solidaire qui est en lien avec le collectif des étudiants sans papier, qui est en lien quand même, mine de rien, même si on les aime pas trop, avec l'UNEF, parce qu'il faut quand même travailler sur les dossiers.
Oui.
Mais oui, non, parfois c'est la BAT qui prime parfois sur le syndicalisme. Parce que voilà, c'est la ligne de Solidaire aussi, c'est un syndicalisme qui se veut de lutte, qui n'a pas vraiment foi, qui a conscience de ce que c'est que la démocratie étudiante et qui ne compte pas en tirer grand-chose.
Oui.
Donc voilà, mais en tout cas, sur Paris 1, cette configuration Solidaire BAT, elle est posée depuis la création de la BAT, en fait, et ça n'a jamais été remis en cause. Il n'a jamais été question, j'espère qu'il ne sera jamais question d'abandonner la BAT.
Non, bien évidemment.
Non, mais ça voudrait dire que la BAT sera une sorte d'appendice de Solidaire étudiant Paris 1 ?
Non.
D'un point de vue légal, à la limite. D'un point de vue légal, c'est un groupe autonome qui s'organise dans un local de Solidaire, mais d'un point de vue organisationnel, non.
Très clairement pas. Il y a suffisamment de gens dans la BAT qui ne sont pas organisés à Solidaire et qui ne souhaitent pas qui ne souhaitent pas s'intéresser dans la vie de Solidaire en règle générale pour que le lien reste sain et peu invasif. Enfin, même pas invasif du tout.
Ok. Alors, il est 18h18. Alors, On va terminer un peu cette heure et demie d'émission avec. On avait tout à l'heure commencé à tirer une sorte de calendrier militant qui vous faisait défaut, hein, quand même un petit peu, même clairement. On a parlé des événements, notamment de celui de ce soir, hein, à la librairie du Monde Libertaire. Alors là, j'aimerais bien vous faire réagir, si tant est que vous ayez quelque chose à dire sur le sujet, sur un événement qui va avoir lieu dans 3 jours. Alors là, c'est l'actualité de nos ennemis, hein, faut être clair, parce que c'est l'Action française, et qui va fêter ses 120 ans à travers un banquet, à travers des prises de parole. Et alors là, je suis obligé de faire un petit point parce que, l'Action française, maintenant, il y en a deux. Il y en a deux parce qu'il y a eu une scission l'année dernière entre, d'un côté, Action française qui est dirigée par François Belker et dont le siège est situé au 10 rue Croix des Petits Champs dans le premier arrondissement. Et il y a de l'autre côté l'Action française qui a rimé au comité directeur de l'association du même nom, qui lui est présidé par André Charles, Hein, retenez bien ce nom. Et c'est donc cette association qui organise l'événement les 120 ans qui nous donne raison. Hein, donc ça a lieu dans 3 jours à Paris. On ne sait pas où et c'est normal parce qu'ils ne diffusent jamais leurs adresses. Alors je suis quand même obligé, pour situer un peu, je suis obligé de lire une part, leur texte en fait de présentation de l'événement. Vous allez voir, c'est savoureux. Alors je cite, hein, il y a 120 ans, l'affaire du traître Dreyfus donnait naissance à un mouvement politique dont personne n'aurait imaginé qu'il deviendrait le fer de lance du nationalisme français et qu'il serait encore bien vivant aujourd'hui. L'action française a été de tous les combats pour préserver l'héritage en absence de l'héritier, c'est-à-dire le roi, puisque ce sont des royalistes. Elle n'a cessé de se battre pour l'intégrité nationale contre les puissances extérieures et intérieures qui voulaient sa perte. Elle n'a cessé de dénoncer l'imposture des droits de l'homme et de la démocratie tout en pratiquant le compromis nationaliste. On est pas mal revenu sur cette idée de compromis nationaliste, que ce soit avec la cocarde ou autre. Je recite le texte pour terminer. « Jamais autant que sous nos yeux ne se sont vérifiées les analyses politiques de l'action française, la monarchie ou la ruine de la France ». Bon, là aussi, est-ce que vous voyez un lien, vous, avec la cocarde, quand je lis ce texte?
On y voit surtout du folklore maurassien, mais
clairement.
Bon, au-delà de ça, la cocarde n'assume pas forcément autant ses racines nationalistes dans son discours.
Royaliste tout au moins, puisque la cocarde et le royalisme, ça fait pas forcément un.
Oui, c'est d'ailleurs très drôle de voir des militants et des militantes de la cocarde qui viennent tracter et qui commencent à se victimiser avant de s'être fait victimiser, ce qui est toujours assez drôle, en disant mais nous, nous sommes pour le débat républicain. Oui, vous êtes pour le débat républicain, avec trois gros bras de l'action française royaliste derrière. C'est très intéressant. Expliquez-nous un peu le concept. Après, ils n'assument pas, c'est vrai. Et en même temps, ça se comprend parce qu'il y a eu, un double mouvement.
Parle bien dans ton micro.
Il y a eu un double mouvement.
Ici, ils sont unidirectionnels, donc.
Il y a eu pas de souci. Il y a eu un double mouvement, peut-être pas assez parlé, entre on a dit qu'il y avait des liens entre l'Action française et la cocarde, mais il y a des militants de l'Action française qui ont rejoint la cocarde, de même qu'il y a des militants de la cocarde qui ont arrêté de militer avec la cocarde et qui se sont vraiment mis dans les rangs de l'Action française. Et c'est quand même le fait que justement tu parles de ce 120e anniversaire, moi ça m'y fait penser, et voilà, je le dis parce qu'on a oublié de le dire tout à l'heure, c'est quand même assez intéressant. Et on sait qu'il y a des membres de la cocarde du coup qui seront là pour ce 120e anniversaire. On va pas dire qu'on sait lesquels, mais on sait. Voilà, on sait qu'il y aura une présence. Mmh. Sans forcément qu'il y ait une com' de la part de la cocarde, évidemment, mais il y aura une présence.
La présence, il y aura notamment celle d'autres individus qui sont quand même, qui font parler d'eux. Hein. Il y aura Eliatem, par exemple, qui est membre du comité directeur de l'Action française. On aura monsieur Jérôme Bourbon, qui est directeur de l'hebdomadaire Rivarol. Et oui. On aura Alain Escada, hein, qui est président de l'Institut Civitas. On aura Yvan Benedetti, qui est chef du mouvement Les Nationalistes. Il y aura Marion Sigaud d'Égalité et Réconciliation.
Une fleur de l'antisémitisme français.
Et pas que, hein, mais ça et bien d'autres choses. Excusez-moi, vous parlez d'Égalité et Réconciliation, vous ne parlez pas de Marion Sigaud là.
Je parle de tout.
De tout l'ensemble, de toute façon.
De l'ensemble. De monsieur Bourbon à.
Ah oui. Rivarol et même Les Nationalistes de Benedetti, parce que là, il est quelle heure? Il est quoi? 18h23 sur Radio Libertaire. On terminera tout à l'heure en parlant de cet homme-là. Mais bon, on va revenir à l'événement de samedi. Hein, présence aussi de monsieur le prince Sixte Henri de Bourbon-Parme. Et pour terminer... Oui, ça fait rigoler quand on n'est pas habillé, quand on le sent pas, quand on le voit pas venir. Et aussi Anne Brassier, qui est collaboratrice de TV Liberté, Radio Courtoisie, Rivarol et aussi du Quotidien Présent. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas d'indication sur le lieu exact de l'événement. Hein, si jamais vous auriez eu envie, et j'espère que c'est pas le cas, d'y aller, en fait, la seule chose à faire, c'est de leur envoyer un message sur leur adresse mail ou d'appeler les numéros mobiles qui sont parfois indiqués. Et voilà, la demande. L'adresse, après entretien, etc. Mais ils sont très sélectifs et d'une façon, je pense qu'ils ont bien raison, parce que sinon on les attaquerait dans la minute et ils le savent très bien. Donc continuez à nous craindre, hein, chers ennemis, c'est à mettre à votre crédit. La seule adresse quand même qui est mentionnée, c'est le 23 rue Charlot, hein, dans le 3e arrondissement de Paris, et c'est celle qui reçoit les chèques pour l'inscription. Hein, donc ça, pour ça, il y a
pas le nord, quoi.
Non, quand même pas. Donc cette adresse, ça peut éventuellement être intéressant de la retenir. Je vais la redire, c'est le 23 rue Charlot, hein, 3e arrondissement de Paris. Donc si jamais vous êtes comme nous à vouloir lutter contre l'Action française et autre chose, cette adresse peut éventuellement nous guider vers quelque chose. Bon, on verra vers quoi dans l'avenir. Moi-même, je n'en sais rien pour le moment, mais bon, voilà. 18h25, dernière annonce, hein, rapidement. Dans 10 jours, c'est à Lyon, la 22e édition du Forum de la Nation, organisée donc par le mouvement d'Ivan Benedetti, les nationalistes, avec la participation de Pierre Sidos, fondateur de l'œuvre française, qui est un très vieux briscard du monde nationaliste. Le mouvement Les Nationalistes, qui là organise un événement sous le thème « L'espérance est nationaliste, point d'exclamation », c'est un mouvement qui prétend sur son site internet affirmer le caractère naturellement blanc et chrétien de la société française, le tout pour vaincre le judéo-maçonnisme. Voilà, monsieur, dame. Donc je ne sais pas si vous avez grand-chose à dire sur le sujet. Chers amis, il reste quoi, 4 minutes à peine ?
Pas particulièrement sur le judéo-maçonnisme, mais... En tout cas, sur
Benedetti,
Monsieur Benedetti, cette personne, enfin cette personnalité, et que ce soit Monsieur Persidos, ce sont des même s'ils peuvent essayer de faire des relookings sur leur nom, puisque les nationalistes s'appelaient précédemment
Parti nationaliste français, l'œuvre française avant ça.
On retourne encore une fois à la bonne vieille droite des années 60, néo-fasciste et arborant. Justement une volonté de violence et de prise et de culte du coup de force. Du coup, on a toujours là cette bonne vieille extrême droite antisémite et violente.
Ok, bon, alors on va s'arrêter là pour notre part parce qu'il est 18h passé de 26 minutes sur Radio Libertaire. Alors c'est la fin du coup de cette émission Actualités Antifascistes. Je remercie très chaleureusement les deux invités qui sont venus nous voir aujourd'hui. Le prochain numéro d'Actualités Antifascistes, ce sera le mercredi 25 mars à 17h. Notez bien la date. Là tout de suite vous avez rendez-vous avec l'émission Femmes Libres, hein, jusqu'à 20h30. Je vous souhaite une excellente écoute des programmes sur Radio Libertaire, sur le 89.4 FM sur Paris et dans toute l'Île-de-France, ou sur radio-libertaire.net. Et quant à nous, on se retrouve le mercredi 25 mars. Ciao !